Nous allons commencer avec un petit peu de retard. Donc je vous remercie d'être venu donc, pour parler d'un sujet qui est relativement complexe et peut-être pas très sexy, qui est donc la tarification des hôpitaux, la régulation des hôpitaux. Et donc notre ambition à nous tous, c'est d'essayer de donner un peu de clarté dans un débat qui est très passionné et qui est en général faussé parce que le sujet est très complexe et que beaucoup d'acteurs ne comprennent pas très bien ce qui se passe. Donc chacun défend ses intérêts sans véritablement comprendre les objectifs de la tarification hospitalière et de la régulation des hôpitaux. Donc ce que nous espérons éclairer un peu le débat et l'améliorer. Alors pour ça, nous avons trois économistes et un médecin journaliste. Nous allons, pour commencer, je vais d'abord intervenir pour faire un exposé qui met un peu à plat le rôle de la tarification hospitalière et les principes de la réforme en cours. Donc expliquer les choses relativement à plat pour montrer les différentes questions qui sont soulevées et les difficultés, la complexité du sujet. Donc après, nous aurons Benoît Leclerc qui va intervenir. Benoît Leclerc est directeur des hôpitaux, il est actuellement conseiller maître à la Cour des comptes, il a une très grande expérience de la direction de l'hôpital, il a dirigé de nombreux établissements et plus récemment les hospices civils de Lyon pendant 3 ans, puis l'assistance publique hôpitaux de Paris jusqu'à septembre dernier. Ensuite, nous aurons une intervention de Jérôme Vincent, donc, qui est médecin initialement à l'origine, puis journaliste sur des questions surtout de médecine dans différents supports journalistiques. Et il est surtout, donc c'est pour ça que nous l'avons fait venir, il est surtout un des initiateurs des palmarès hospitaliers, donc qui ont eu un grand écho auprès du public. Et maintenant vous êtes journaliste au point et vous continuez à sévir en matière de palmarès tous les ans. Et le rôle de Jérôme Vincent devrait être un peu d'intervenir sur la question du débat, savoir comment le débat s'organise et pourquoi des arguments qui, à nous, économistes, nous paraissent faux, ont tant de crédit auprès du grand public. Et donc pour conclure, nous aurons Michel Mougeot qui fera plus que conclure et qui devrait analyser par rapport à ce que nous aurons dit la façon dont les résistances s'organisent par rapport à la réforme et pourquoi, comment il faut interpréter ces résistances, qui sont les acteurs, quelles sont leur place dans le système et comment peut-on interpréter la façon dont les choses se déroulent en matière de réforme hospitalière. Donc en ce qui me concerne, je suis professeure à l'Université Paris-Dauphine et responsable de la chaire santé de la Fondation du RIS, donc qui est à cheval sur plusieurs institutions, qui sont Dauphine, l'École Polytechnique et l'ENSAE. Et donc je travaille sur l'hôpital depuis un certain temps, enfin, comme Michel Mougeot qui a beaucoup d'ancienneté sur cette question. Donc je travaille au niveau académique sur ces questions et je vais essayer de faire un exposé, j'espère qu'il ne sera pas trop technique, sur la réforme de la tarification hospitalière. Pourquoi faut-il réguler l'hôpital ? C'est très important de ne pas faire de confusion. En fait, ça n'a rien à voir avec le statut des hôpitaux, ça n'a rien à voir avec le fait que des hôpitaux pourraient être publics, privés, privés à but lucratif, privés à but non lucratif. C'est essentiellement dû au fait que les soins sont couverts par l'assurance maladie, laquelle assurance maladie en France est financée sur prélèvement obligatoire. Et donc, il faut garantir un bon usage des fonds ainsi collectés. Et garantir ce bon usage, ça veut dire qu'il faut rechercher l'efficacité de la dépense. Donc, je vais revenir sur ce terme après. Il y a un autre mot qui est souvent utilisé par les médecins, qui est le mot déficience. Nous, économistes, on dit efficacité, mais pour qui signifie efficience. Donc, si on ne recherche pas la plus grande efficacité, le meilleur usage des fonds, en fait, on s'expose à un risque politique qui est un défaut d'adhésion des citoyens aux prélèvements opérés par la sécurité sociale, et donc une remise en cause d'un système qui est basé sur une mutualisation de risques. Alors, si on pense qu'il y a énormément de gâchis, donc on voit un certain nombre de discours politiques qui fleurissent de temps en temps là-dessus, il y a une remise en cause de la façon dont l'argent est utilisé, et à ce moment-là, une remise en cause politique de l'idée de faire des prélèvements obligatoires pour financer des hôpitaux dans le cadre d'une assurance maladie collective. Alors il y a une confusion qui est fréquemment réalisée entre recherche d'efficacité et rationnement des soins. En fait, ça n'a rien à voir. Rechercher l'efficacité de la dépense ne signifie pas du tout réduire la dépense. Cette confusion, elle est entretenue par tous les acteurs et souvent cette confusion est remise dans tous les écrits. Alors ce que signifie l'efficacité ou l'efficience, c'est dépenser le moins possible pour un résultat donné. Donc c'est utiliser les prélèvements de manière efficace. Et même on peut penser qu'un bon niveau d'efficacité, c'est un préalable à une décision d'augmenter les dépenses de santé. Si on demande que plus de moyens soient dévolus à la santé, si on pense qu'il y a un niveau d'efficacité qui est très mauvais, qu'il y a 30% de dépenses en trop pour des raisons de gâchis, à ce moment-là, le débat va s'orienter dans le sens de chercher, de ne pas vouloir augmenter les dépenses de santé. Donc c'est plus un préalable qu'un... c'est absolument pas une volonté de rationner les soins. Alors, quelques généralités sur l'hôpital. L'hôpital, c'est de très loin ce qui coûte le plus cher dans le système de santé. Pourquoi ? Parce qu'il représentait pendant très longtemps la moitié des dépenses de santé. Maintenant, il en représente 44%. Mais 44% pour quelque chose qui n'est consommé que par 10% des assurés. C'est-à-dire qu'en moyenne, seule une personne sur 10 en France va à l'hôpital une année donnée. Donc, c'est quelque chose qui coûte extrêmement cher. Il y a trois statuts pour les hôpitaux, donc essentiellement des hôpitaux publics et des hôpitaux privés à but lucratif. Et les hôpitaux privés à but lucratif ont une place relativement importante en France par rapport à d'autres pays. Par exemple, il y a assez peu de pays où l'hôpital à but lucratif a une place comparable à ce qu'on a en France. Donc là, j'ai partagé le 44%. Vous voyez qu'il y a trois quarts qui vont à l'hôpital public et un quart aux hôpitaux privés pour la dépense. Alors, en matière de contribution aux services hospitaliers, là, en bleu foncé, il faut tourner le... En bleu foncé, vous avez les services hospitaliers assurés par les hôpitaux publics, et en vert, enfin, tout à gauche, vous avez les hôpitaux publics, et ici, les hôpitaux privés. Donc là, j'ai comptabilisé la production hospitalière avec les outils de la T2A, et ce qu'on voit, c'est que l'essentiel de la production de services hospitaliers est assuré par les grands hôpitaux publics. Donc ça, c'est une donnée qu'il faut avoir en tête. L'hôpital privé a une certaine place, mais qui reste quand même modérée comparé à ce qu'on a en matière de production hospitalière de la part de l'hôpital public. Alors, en revanche, les hôpitaux privés ont une... structure de leur activité tout à fait particulière, c'est-à-dire qu'ils ont énormément de soins chirurgicaux. On distingue les séjours hospitaliers en séjour médical ou séjour chirurgical qui est organisé autour d'une opération chirurgicale. Donc les hôpitaux privés, donc ça c'est la proportion de séjours chirurgicaux dans les différentes catégories d'hôpitaux. Donc dans l'hôpital public, on voit qu'il y a une assez faible proportion de séjours chirurgicaux. Dans le privé, quelle que soit la taille des hôpitaux, donc c'est les trois barres que vous avez à droite, il y a autour de 50% de séjours chirurgicaux. Donc une structure de la production très particulière. Alors pour réfléchir au débat en matière de tarification hospitalière, il faut réfléchir aux parties en présence et à leurs objectifs. Donc les économistes de l'économie publique réfléchissent dans ces termes. Qui fait quoi et quels sont les intérêts de telle ou telle partie. Donc je vais distinguer, donc c'est évidemment très schématique, les patients qui sont aussi des assurés sociaux, les hôpitaux qui sont une boîte noire mais à l'intérieur de laquelle il y a un gestionnaire, il y a des médecins hospitaliers, il y a d'autres personnels, et puis ce qu'on appelle la tutelle dans le jargon économique qui représente l'organisme payeur qui va financer les hôpitaux et qui collecte les fonds auprès des assurés sociaux. Donc selon les sociétés, la La tutelle peut varier, hein, ça peut être un État, ça peut être un assureur unique, comme en France la sécurité sociale, ou dans d'autres pays comme la Suisse, des assurances plurielles en concurrence, ou dans d'autres pays aussi en bassin. Alors quels sont les objectifs du premier acteur, qui sont les patients? Donc les objectifs des patients, c'est d'avoir des soins de qualité, donc ils veulent que le médecin soit compétent, que la douleur soit prise en compte, qu'il ait une bonne qualité de vie à l'issue de son séjour hospitalier, etc. Il veut un bon accès aux soins, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas trop de file d'attente ou pas de file d'attente du tout. Des soins appropriés, donc ça c'est un point relativement important, rarement évoqué, c'est-à-dire qu'il veut des procédures justifiées et pas de soins excessifs. Donc l'exemple standard, c'est celui de la césarienne ou de l'accouchement par voie basse sans complications. Hein. Est-ce qu'il faut une césarienne ou non ? Là, c'est très difficile de contrôler les choses, c'est le médecin qui décide et le patient a intérêt, la patiente, à ne pas avoir de césarienne si elle n'est pas nécessaire. Hein. Donc ça fait partie, quand je dis pas de soins excessifs, c'est à ce type de choses que je pense, enfin, ça c'est un des exemples. Et il veut des soins à juste coût. Pourquoi est-il concerné par le juste coût ? Pour plusieurs raisons, parce que le coût des soins se transforme en cotisation qu'il doit verser à la sécurité sociale. Ça se transforme aussi en une prime d'assurance complémentaire qu'il va verser pour avoir une assurance complémentaire. Il a aussi des restes à charge et il doit payer des dépassements certaines fois. Donc le patient est concerné par une efficacité dans la production de soins. Il est concerné par l'idée qu'on dépense le moins possible à niveau de soins donnés. À niveau de soins donnés, ça c'est le point fondamental. Alors quel est l'objectif des médecins hospitaliers ? Donc un peu en vrac, hein, il y a l'idée d'un bon niveau de vie, d'avoir une bonne estime de soi, donc qui a à voir avec l'éthique du médecin et son désir de prestige, une bonne qualité de vie au travail, donc ça a à voir avec la durée du travail, avec sa capacité à répondre à la demande qui lui est adressée, avec la façon dont les charges administratives sont organisées. Et puis il y a un autre point relativement important, donc qui surgit beaucoup dans le débat, il voudrait avoir une liberté dans ses stratégies de soins, et donc ça, ça interfère avec ses relations avec la tutelle via le directeur d'hôpital. Alors quels sont les objectifs de la tutelle maintenant, donc de l'État ou de la sécurité sociale? En principe, donc dans la théorie économique, la tutelle est un agent des assurés, c'est-à-dire qu'on veut dire, donc là je l'ai traduit en disant la tutelle est censée agir dans l'intérêt des assurés, c'est-à-dire qu'elle doit encourager les hôpitaux donc, à répondre aux besoins des assurés, donc à répondre aux besoins sans induire d'activité injustifiée, donc pas de demande induite, pas de sursoins par rapport aux besoins de l'assuré. Elle doit les inciter à fournir des soins au moindre coût, donc rechercher l'efficacité de la production de soins. Elle doit garantir l'équité dans l'accès aux soins et faire en sorte qu'il n'y ait pas de rationnement dans l'offre de soins. Donc, quelle est la place du directeur d'hôpital dans tout ça? En fait, il est à l'interface de la tutelle, des personnels hospitaliers, des médecins de l'hôpital et des patients. Alors, le problème, c'est que la tutelle a des difficultés en matière d'information. C'est pour ça que les choses sont compliquées. Donc, elle ne peut pas... Ça, c'est un point essentiel des questions d'hôpital, la tutelle ne peut pas connaître, elle ne peut pas non plus contrôler les efforts fournis par les agents hospitaliers pour réduire les coûts. Il n'y a pas de policiers qui surveillent, de contrôleurs qui surveillent la façon dont l'hôpital est organisé, qui surveillent chaque médecin pour regarder ses faits et gestes. On ne veut pas de cette société-là, hein, de toute façon. Mais donc Big Brother ne peut pas connaître les efforts des agents hospitaliers pour réduire les coûts. Et il y a autre chose qu'elle ne connaît pas, et donc elle va être obligée non pas d'observer les efforts, mais de mettre en place des mécanismes pour inciter les agents à faire des efforts. Et elle a un autre problème d'information, c'est-à-dire qu'elle ne connaît pas les contraintes spécifiques auxquelles les hôpitaux peuvent être confrontés. C'est-à-dire qu'un hôpital peut très bien dire « oui, je suis plus cher que les autres, mais regardez, j'ai une population très particulière de personnes qui sont en difficulté, je dois les garder 4 jours de plus pour chaque séjour, ça alourdit considérablement mes coûts. Si je veux les renvoyer plus tôt, je vais avoir les associations sur le dos. » Ceci est difficilement vérifiable par la tutelle, et donc la tutelle ne connaît pas la réalité des contraintes qui pèsent sur les hôpitaux. Donc ça, c'est le deuxième problème informationnel. Alors le système de tarification, en fait, cherche à résoudre ces difficultés, ces problèmes d'information qu'a la tutelle pour rechercher l'efficacité. Alors, je vais là simplifier énormément. Donc, on a tendance à distinguer paiement prospectif, paiement rétrospectif. Et l'idée, c'est de passer de paiement rétrospectif à des paiements prospectifs. Alors, les paiements rétrospectifs, en fait, c'est des paiements où on rembourse a posteriori l'hôpital pour les frais qu'il a encourus. C'est-à-dire que le patient va avoir un séjour à l'hôpital. Après, l'hôpital dit à la Sécurité sociale, ben voilà, j'ai eu tant de patients, je leur ai fait ça, ça va coûter tant, remboursez-moi. Donc, le paiement rétrospectif, c'est un remboursement a posteriori des coûts qui sont présentés par l'hôpital. Alors, ce type de paiement, évidemment, n'a aucun aspect incitatif pour l'efficacité, puisque l'hôpital peut avoir n'importe quel coût de traitement, il sera remboursé. Donc, il n'y a aucune incitation. Donc, ce qu'on pense, c'est qu'il faut introduire des paiements prospectifs qui incitent à un fonctionnement efficace. Alors, le paiement prospectif, ça consiste à dire, pour telle action, donc par exemple, pour quelqu'un qui vient pour une crise cardiaque, vous aurez 5 000 euros, quel que soit le traitement que vous lui faites. Donc, le paiement prospectif, c'est un forfait par cas dans une maladie donnée, pour un séjour dans une maladie donnée. Et si l'hôpital est moins cher, il garde la différence. S'il est plus cher, il est en déficit car il ne sera payé que 5 000 euros, même si les coûts de traitement ont dépassé les 5 000 et se sont montés à 6 000 euros. Donc ça, ça incite à un fonctionnement efficace. C'est très puissant si effectivement les hôpitaux sont mis en déficit ou en excédent. Le seul problème, c'est qu'il faut savoir à quel niveau fixer le paiement. Est-ce qu'il faut le mettre à 5 000 euros ou 6 000, 7 000 ? Quel est le bon niveau de traitement pour quelqu'un qui a une crise cardiaque ? Donc ça, c'est l'autre problème d'information qui a à voir avec ce que je disais tout à l'heure sur la difficulté de connaître les véritables contraintes auxquelles sont confrontés les hôpitaux. C'est qu'il faut mesurer correctement le coût de traitement dans une maladie donnée. Alors, pour revenir un peu en arrière, on a trois systèmes de paiement. Le paiement à l'acte, le budget global, la tarification et la pathologie. Donc, le paiement à l'acte, c'est ce dont j'ai parlé tout à l'heure, enfin, il y a 3 minutes, finance de manière rétrospective le coût des soins, les soins au coût observé. Donc, c'est très rétrospectif, même si le prix de l'acte est fixé. Si le prix de l'acte est fixé, c'est rétrospectif dans la mesure où on ne contrôle pas ce que le médecin fait. C'est-à-dire, si le médecin décide de faire une césarienne plutôt qu'un accouchement par voie basse, ça sera payé au prix de la césarienne. Donc ça reste rétrospectif parce que les décisions en matière d'acte restent décidées par le médecin, c'est toujours décidé par le médecin, mais le remboursement va suivre automatiquement. Alors, le budget global, c'est un autre paiement qui attribue à l'établissement un budget pour l'ensemble de son activité annuelle. Donc ça, c'est un autre système de paiement hospitalier qui a beaucoup été utilisé. Et le troisième système dont s'inspire la tarification à l'activité, qui est le système en cours en France, c'est la tarification par pathologie. Donc la tarification par pathologie consiste à financer chaque séjour par un forfait qui est calculé pour une pathologie donnée. Donc c'est l'exemple que j'ai pris de la crise cardiaque, mais on a une nomenclature relativement fine. Par exemple, une crise cardiaque soignée par la mise en œuvre d'une angioplastie donne lieu à un GHM, donc c'est un groupe homogène de malades. Donc les pathologies sont appelées groupe homogène de malades particuliers. Et il y a une tarification associée à l'infarctus du myocarde aigu traité par une angioplastie. Il y a un autre GHM et un autre tarif pour l'infarctus du myocarde aigu traité uniquement par une observation médicale et des médicaments. Donc la tarification par pathologie, c'est une tarification au forfait par séjour dans une maladie donnée. Donc là, c'est une sorte de récapitulatif. Donc pour essayer de voir, donc on a trois paiements. Le remboursement du coût, c'est un système rétrospectif. Le budget global, maintenant, c'est un système de paiement qui est très prospectif, en principe. Alors pourquoi je dis en principe ? Parce que si les hôpitaux sont en déficit, si quand ils sont en déficit, la tutelle rembourse forcément les déficits et ne met aucune contrainte financière sur les hôpitaux, de fait, ça revient à un remboursement des coûts. Donc c'est un système qui est prospectif en principe, mais qui, en fonction des modalités de son application, peut devenir très rétrospectif. Ensuite, on a la tarification à la pathologie, donc c'est le financement avec un forfait par, par cas, par séjour dans une maladie donnée. Donc c'est prospectif en principe, donc là encore je reviendrai là-dessus après. Donc en principe, ça a de bonnes propriétés en matière d'incitation à l'efficacité. Alors comment déterminer les forfaits? Donc c'est la question que je posais tout à l'heure, comment savoir s'il faut 5 000 euros ou 6 000 euros ou 10 000 euros pour un infarctus du myocarde aigu. Alors là on applique, il y a un problème informationnel de la tutelle, elle ne sait pas combien ça coûte véritablement. Et donc là, il y a le pourquoi? Parce qu'elle observe les coûts effectifs qui sont liés à des hôpitaux qui ne font pas forcément des efforts d'efficacité. Donc on observe bien les coûts effectifs, mais on ne sait pas quel est le vrai coût au cas où l'hôpital fonctionnerait de façon efficace. Donc le principe de la concurrence par comparaison, ça consiste, donc c'est ce que j'ai écrit là, à dire aux hôpitaux, vous serez payé pour l'infarctus du myocarde aigu au coût de traitement moyen observé dans tous les hôpitaux à la fin de l'année. Donc vous allez fonctionner, je vais observer les coûts, je vais faire la moyenne et vous serez payé à la moyenne. Donc comme tous les gestionnaires d'hôpitaux savent ça, ils savent qu'à la fin de l'année, s'ils ne font aucun effort pour fonctionner à moindre coût, il est très possible que les autres hôpitaux, eux, fassent des efforts pour réduire les coûts, et à ce moment-là, il sera en déficit. Et donc, il va être incité à fonctionner de manière efficace pour éviter d'être en déficit. Et tous les hôpitaux vont fonctionner de cette façon-là, et donc c'est un mécanisme qui permet de révéler le vrai coût de fonctionnement efficace. Donc ça, c'est quelque chose qui est très puissant si c'était véritablement appliqué. Évidemment, ça n'est pas véritablement appliqué. Donc ça permet de connaître le coût et de fixer le forfait à son juste niveau. Alors maintenant, quels sont les effets de la tarification par pathologie par rapport au budget global? Donc comme on le verra juste après, historiquement, les hôpitaux français ont été financés par budget global très longtemps, et on est en train de passer à la tarification par pathologie. Donc la vraie question, c'est pas de savoir si la tarification par pathologie a d'énormes défauts, c'est de savoir si ces défauts sont pires ou si c'est une petite amélioration par rapport au budget global. C'est ça la vraie question, c'est est-ce qu'on avance un petit peu avec cette réforme? Alors donc il y a deux colonnes, une colonne budget global et une colonne tarification par pathologie. Donc je rappelle la définition. Et je m'interroge sur les variables d'ajustement pour le gestionnaire. Donc le gestionnaire d'hôpitaux, il faut qu'il rentre dans le tuyau et que ses coûts ne dépassent pas ce qu'il va avoir comme budget. Donc comment il peut s'ajuster pour baisser les coûts? Alors là, il y a plusieurs choses. Le premier point, c'est efficacité par séjour dans un GHM, donc dans une pathologie donnée. Donc là, nous, c'est ce qu'on veut, nous économistes et nous patients. C'est des gains d'efficacité. Et après, c'est des choses qu'on ne veut pas vraiment. Après, ce sont les effets délétères potentiels de ce type de tarification. Donc, avec le budget global, on voit bien que le manager peut aller au bout de son budget en novembre. Qu'est-ce qu'il fait après en décembre? Comment il fait pour fonctionner? Il va réduire le nombre de séjours. Il va choisir des cas traités relativement moins onéreux pour dépenser moins. Il peut aussi, tout au long de l'année, sélectionner des patients pour avoir des patients plutôt moins coûteux, et puis il peut aussi dégrader la qualité des soins. Donc là, c'est tout ce que le budget global peut entraîner comme dysfonctionnement pour que le manager rentre dans le budget. Alors la tarification par pathologie, donc j'ai fait le même exercice. Premier tiret, gain en matière d'efficacité par séjour, c'est ce que nous voulons, et puis sinon, autre type d'ajustement, il peut chercher à classer les patients dans des GHM plus coûteux pour gagner plus avec un patient donné. Il peut aussi sélectionner les patients, il peut dégrader la qualité des soins. Mais, alors j'ai mis en caractère gras ce qui est différent dans l'un et l'autre cas, mais il ne va pas jouer sur le nombre de séjours en principe, puisqu'il est payé par séjour. Et il ne va sans doute pas manipuler l'éventail des cas traités, puisqu'en principe, il est payé pour chaque cas traité. Voilà, bon, là, je passe pour accélérer. Donc, historiquement, en fait, les États-Unis sont passés à la tarification par pathologie pour un certain nombre d'hôpitaux, donc c'était géré par l'assureur, très tôt, au début des années 80. Alors que tous les pays d'Europe occidentale, et en fait, ils sont passés du remboursement du coût au budget global au début des années 80 pour maîtriser les coûts. Et ça a créé des grandes pénuries dans certains pays scandinaves, par exemple. Et après, au début des années 2000, en gros, tout le monde est passé à des choses qui ressemblent à la tarification par pathologie. Alors, avec un point assez intéressant, c'est que les objectifs ont différé selon les pays. Dans les pays scandinaves, où le budget global avait entraîné d'énormes files d'attente, la tarification par pathologie était introduite pour augmenter l'offre de soins, justement pour libérer les hôpitaux de cette contrainte sur le nombre total de cas traités. Bon, en France, en Allemagne, en Suisse, au Québec, la recherche, c'est de gagner en efficacité. Alors, qu'est-ce qu'il y a eu comme... donc, j'en ai encore pour 3 minutes. Qu'est-ce qu'il y a eu comme... avec donc un jugement sur ce qui se passe en France. Donc, qu'est-ce qu'il y a eu comme tarification hospitalière en France? Donc, depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale jusqu'en 1983, on a eu un paiement rétrospectif sous la forme d'un remboursement du coût au prix de journée. Et de 83 à 2004, un budget global pour les hôpitaux publics, avec, en plus des défauts que j'ai signalés tout à l'heure, de grandes inégalités de dotation entre hôpitaux, puisque les budgets étaient calculés sans rapport réel avec l'activité des établissements. Donc en fait, les établissements qui avaient l'activité la moins dynamique étaient plutôt mieux dotés que les autres. Et en pratique, il y avait une contrainte budgétaire plutôt molle, donc c'est ce à quoi j'ai fait référence tout à l'heure, c'est-à-dire que les hôpitaux en déficit étaient renfloués systématiquement, ce qui fait que le budget global s'est rapproché progressivement d'un système de paiement rétrospectif. Alors une autre date importante donc, pour les hôpitaux, c'est le plan Juppé 1996, où il y a eu la création de l'ONDAM, Objectif National de Dépenses d'Assurance Maladie, qui est un vote au Parlement de la totalité des dépenses de santé pour l'année. Et donc ceci, il y a une partie hôpital, et ceci depuis 1996, surdétermine la dépense hospitalière à l'intérieur d'une enveloppe fermée qui est la somme qui a été décidée dans le cadre de l'ONDAM. Et en 2004, on a introduit la tarification à l'activité, donc uniquement pour les soins aigus en médecine, chirurgie obstétrique, donc pour les séjours courts, et cette tarification par pathologie, qui s'appelle tarification à l'activité en France, n'a été mise en place pleinement qu'en 2008. Alors la T2A, donc tarification à l'activité, donc elle s'inspire de la tarification par pathologie. On a un paiement forfaitaire pour un séjour dans une pathologie donnée. On applique le principe de la concurrence par comparaison, hein, c'est-à-dire que tout surcoût non justifié est interprété comme de l'inefficacité et n'est pas payé. Le forfait, c'est 5 000 euros, vous aurez 5 000 euros, même si ça vous a coûté 6 000 euros, ça veut dire que les 1 000 euros, c'est de l'inefficacité. Donc on met en déficit les hôpitaux dont les coûts sont au-dessus de la moyenne. Et alors ce qu'on observe en pratique, donc il y a eu un rapport de la Cour des comptes récent là-dessus, c'est une réduction progressive du nombre d'hôpitaux en déficit. Il y a des hôpitaux qui sont des déficits considérables, mais le nombre d'hôpitaux en déficit diminue. Il y avait 60% des hôpitaux publics en 2006, maintenant ils sont 37% à être en déficit. Alors, la T2A en pratique, les dévoiements de cette réforme. Donc en pratique, la T2A se rapproche d'un paiement à l'acte, et même pire, d'un paiement à l'acte avec un point flottant. Alors pourquoi un paiement à l'acte, donc très rétrospectif? Parce que la classification qui a été mise au point pour les pathologies, pour les GHM, les groupes homogènes de malades, la classification est très dépendante des actes pratiqués. Donc si vous décidez de faire une césarienne, eh bien vous serez payé pour la césarienne, si vous décidez de faire une angioplastie, pareil. Donc, c'est très proche d'un paiement à l'acte, les décisions du médecin vont décider du paiement. Et autre chose, c'est un point flottant parce que l'ONDAM détermine la totalité des dépenses pour l'hôpital. C'est, au total, l'hôpital aura de toute façon tel budget. Et donc, s'il y a énormément de séjours, énormément d'actes et une activité qui augmente, en fait, on va lui diminuer la valeur du point associé à son activité. Et même l'hôpital, alors c'est très pervers, très délétère comme système, parce que le point va diminuer en fonction de l'activité de tous les hôpitaux, alors là j'ai une petite hésitation, je pense de la région. Et donc si les hôpitaux de la région sont très actifs, même si moi, hôpital, je suis vertueux, je fais peu d'actes, je ne fais pas de demande induite, je ne fais pas plus d'actes qu'il ne faut, eh bien la valeur du point va diminuer parce que tous les autres hôpitaux de la région jouent la course pour gagner plus de points avec le nombre d'actes pratiqués. Donc là, le fait d'avoir quelque chose qui est proche d'un paiement à l'acte avec un point flottant, ça vraiment, ça crée de fortes incitations à une activité excessive par rapport aux besoins. Et donc c'est relativement délétère par rapport, non pas au point financier, puisque l'enveloppe est fermée, hein, mais par rapport à la qualité des soins, par rapport au fait d'avoir le soin juste, opportun et pas de sursoin injustifié. Alors récemment, on atteint des sommets, puisqu'il y a eu un affinement considérable de la nomenclature, c'est-à-dire que le nombre de pathologies est passé de 700 en 2006 dans la classification à plus de 2291 actuellement. Et donc là, c'est une incitation supplémentaire à surcoder les patients, puisque l'affinement est lié à le degré de sévérité du patient qui est très difficile à vérifier. Donc les médecins ont intérêt à surcoder tous les patients pour améliorer leur nombre de points. Alors, autre gros problème de la T2A, c'est qu'il y a de nombreux paiements annexes. Alors, pour les opérations, pour les activités de type service public, qui sont l'enseignement, la recherche, le SAMU, les centres antipoison, l'équipe mobile de type soins palliatifs, etc., les forfaits urgences, les greffes. Et en fait, ces dotations spécifiques donc, que personne ne conteste, sont, ce qu'on constate, c'est qu'en pratique, elles sont d'un montant très élevé. Elles représentent actuellement 18% du budget des soins aigus. Elles sont concentrées dans le secteur public, ce qui n'est pas très étonnant, mais surtout, elles se développent d'une façon non contrôlée. Et elles viennent en déduction du budget total pour la T2A. Donc ce qui se passe actuellement, c'est que le rapport de la Cour des comptes pointe cela, c'est qu'apparemment, un certain nombre d'hôpitaux en difficulté à cause de la T2A, au lieu de faire des efforts pour gagner en efficacité, plaident leur cause pour faire gonfler cette enveloppe donc, auprès de l'agence régionale d'hospitalisation et obtiennent ainsi des fonds non justifiés par une activité médicale ou une activité de paiement liée à la T2A. Et donc là, on perd la maîtrise, on perd tous les effets qu'on pouvait attendre de la T2A. Donc ça, c'est un très fort dévoiement qu'il faudrait corriger. Alors, autre question très importante, c'est qu'actuellement, il y a deux grilles tarifaires, une pour les hôpitaux publics et privés à but non lucratif, et une autre pour les hôpitaux privés. Et on a une convergence tarifaire, donc il y a deux grilles de tarifs très différents, et il y a une convergence tarifaire, c'est-à-dire que les tarifs publics-privés devraient être identiques à l'horizon, ça devait être 2009, après 2012, enfin 2012, puis 2009, puis re-2012, et puis finalement 2018, mais il y a un horizon qui est donné par l'État, par l'autorité, par le ministère, de convergence à l'horizon 2018. Or, dans le secteur public, il y a des contraintes spécifiques qui font qu'il y a inégalité de fonctionnement et de marge d'ajustement dans le secteur public d'une part et dans le secteur privé d'autre part. Donc, par exemple, dans le secteur public, la gestion de la main-d'œuvre a très peu de souplesse par rapport au secteur privé. Les hôpitaux publics ont un cahier des charges en matière d'offres de soins polyvalents qui font qu'ils ne peuvent pas, un hôpital public ne peut pas décider de se spécialiser juste dans 3 ou 4 segments de type cataracte pour fonctionner. Il est obligé de répondre aux besoins tels qu'ils lui ont été spécifiés par la tutelle. Et puis, ils n'ont pas le droit de sélectionner des patients. Donc, il y a des contraintes spécifiques au secteur public qui font qu'il est difficilement imaginable de mettre en concurrence le secteur public et le secteur privé. Du moins en l'état de l'organisation. Alors, faut-il retenir cet objectif ? Donc ça, c'est une question qu'il faut, à mon avis, aborder, d'autant plus que si on croit au mécanisme de la concurrence par comparaison, il va suffire de mettre les hôpitaux publics en concurrence entre eux, d'une part, et les hôpitaux privés en concurrence entre eux, d'autre part. Voilà, donc j'étais un petit peu longue. Donc, en conclusion, moi, je voulais dire qu'on pense quand même que c'est mieux que le budget global. Donc, ça a beaucoup de défauts que j'ai assez peu évoqués, j'ai juste évoqué les dangers. Mais on est très loin d'une vraie tarification par pathologie, puisqu'il y a énormément de dévoiements dont j'ai parlé juste il y a deux minutes. Et en tout cas, de nombreuses questions restent en suspens, qui sont, à mon avis, assez fondamentales. C'est comment prendre en compte l'hétérogénéité des hôpitaux. Donc là, il y a pas mal d'économistes qui planchent sur la question. Peut-être qu'un hôpital qui est à 6 000 euros au lieu de 5 000, en fait, il a de vraies raisons de passer plus de 6 000 euros. Comment faire pour avoir un mécanisme de régulation qui intègre l'hétérogénéité des hôpitaux sans accepter des pertes d'efficacité? Comment faire en sorte que l'offre de soins réponde aux besoins? Donc là, c'est en rapport avec le débat sur la convergence tarifaire public-privé. Si on met vraiment en concurrence le public et le privé, privés. On voit bien que les hôpitaux publics vont être incités à réorienter leur activité. Il peut y avoir un problème sur l'offre de soins. Donc j'avais envie de poser la question de l'IVG, des imprésents de l'IVG. Donc on ne sait pas très bien comment l'interpréter. Hein. Je pense que moi, ce que j'en ai compris, c'est que le tarif a fait que le secteur privé assumait pas mal d'IVG. Le tarif a fait qu'ils ont arrêté d'en faire. Et le secteur public n'a pas répondu aussi sec surcroît au report de la demande. Alors je ne sais pas si c'est ça. Est-ce que c'est la faute de la T2A ou d'une mauvaise décision qui n'est pas connectée à la T2A? Ça, c'est une vraie question. Et puis pour la qualité des soins, bon, on a vu que si on met les hôpitaux sous pression, ils peuvent vouloir dégrader la qualité des soins. Et donc là, il y a une vraie question de comment on va faire pour éviter cela. Et à mon avis, il faut vraiment suivre l'évolution de la qualité des soins pour voir ce qui se passe de ce côté. Voilà, je vous remercie. Je passe la parole à Benoît Leclerc sur de savoir comment concrètement on peut gagner en efficacité. Est-ce qu'il y a des risques sur la qualité des soins?
Alors, je voudrais tout d'abord prendre une précaution oratoire. Je ne m'exprime pas en tant que conseiller maître à la Cour des comptes, je m'exprime bien en tant qu'ancien directeur d'hôpital, ayant dirigé 5 hôpitaux, dont 4 universités à l'extérieur, les universités de Dijon, Nancy, Lyon et Paris. Je voudrais ne pas revenir sur toutes les définitions que vient de présenter Mme de Rondeau. Je voudrais dire simplement que la régulation d'un hôpital, c'est d'abord quelque chose d'extrêmement complexe pour le gestionnaire. Donc je me place du point de vue du gestionnaire public. Parce que la régulation, elle n'est pas qu'économique. Elle s'appuie sur le rôle de la... Enfin, sur ce que la tutelle va définir, qu'a très bien précisé Mme Dormont, sur qu'est-ce que les règles de sécurité, de qualité que doivent respecter les hôpitaux. Quelles sont les règles sanitaires, des règles de sécurité électrique, des règles de qualité des soins, d'indication médicale dans certains usages, etc. Donc il y a toute une armée, si j'ose dire, d'environnement qui pousse l'hôpital et ses acteurs à faire de la qualité et de la sécurité. Donc il y a une barrière déjà par rapport à ce risque de dévoiement que pourrait générer la T2A qui est, on va gérer par... baisse des moyens mis, donc, et peut-être de la qualité. Donc, il y a un frein très fort. Et moi, j'observe depuis bientôt 40 ans, j'observais, parce que je suis directeur de l'hôpital, j'observe que pendant 39 ans de carrière, ce que j'ai vu, c'est que l'État s'est donné progressivement les moyens, d'une part, de définir un certain nombre de normes, de plus en plus contraignantes, certes, multiples et variées, quelquefois cohérentes, enfin, globalement, il y en a. Et deuxièmement, de se donner les moyens d'un contrôle de l'exécution de ces normes. Je vais prendre deux exemples. On a un remboursement rétrospectif à l'hôpital qui est un certain nombre de médicaments, de molécules dites onéreuses ou de dispositifs médicaux qui sont remboursés à l'euro près, c'est-à-dire qu'ils sont hors de la tarification, mais qui sont soumis à un contrat de bon usage, c'est-à-dire que vous devez respecter pour prescrire telle molécule un protocole et les indications de l'autorisation mise sur le marché. Donc il y a un contrôle qui est effectué régulièrement par les médecins de la Sécurité sociale. Deuxième contrôle, sur la codification. Chaque année, j'ai vu à l'assistance publique hôpitaux de Paris, débarquer des médecins inspecteurs dans différents hôpitaux, disant cette année on va s'intéresser à la chirurgie ambulatoire, et vérifier donc par comparaison avec la chirurgie non ambulatoire, c'est-à-dire celle de plus d'un jour, si effectivement les indications, etc. Donc c'est des contrôles aléatoires sur dossiers tirés au sort, etc. Et là on s'aperçoit que, d'une part, quand ils trouvent une erreur de codification, ils nous la font corriger en plus ou en moins, c'est plutôt qu'il faut rembourser l'assurance maladie, donc l'hôpital rembourse. Et que par ailleurs, il y a des pénalités. Non seulement vous payez ce que vous n'avez pas bien fait, mais en plus vous avez une pénalité. Donc progressivement, l'État se donne les moyens. Par le biais de l'assurance maladie, par le biais des agences de santé, de faire en sorte que. Autre moyen de travailler sur la qualité, c'est l'accréditation, la certification. La Haute Autorité de Santé, elle, définit progressivement un certain nombre de normes. Je vois dans mon nouveau travail, j'ai à conduire une évaluation de la politique du plan de santé mentale. Et qu'à ce titre, moi je m'occupe tout particulièrement de la santé mentale dans les prisons. On s'aperçoit par exemple que la Haute Autorité de Santé, la HAS, a défini des normes, des protocoles de prise en charge des détenus avec des conduites, par exemple, suicidaires. Donc on voit bien, si vous voulez, que progressivement, au-delà d'effets importants de risque de déviance, il y a aussi des effets de plus en plus importants, sans doute un peu desquels, c'est un peu la course du voleur et aux gendarmes, mais il n'empêche que l'État se donne progressivement les moyens de ce contrôle de la qualité. Donc c'est dire que la régulation économique, et ce à quoi je voulais revenir, se fait dans ce contexte-là. Vous ne pouvez pas faire n'importe quoi. Et puis le deuxième élément à prendre en compte, c'est les exigences. Et quand je dis exigences, ce n'est pas exigences capricieuses de la population, c'est les exigences légitimes de la population qui entend parler du progrès médical, entend parler de la qualité de la vie, du respect de la personne, et qui exige de plus en plus, légitimement, comme vous pouvez voir, des soins de qualité, des qualités de la formation, d'environnement, de la douleur, etc. Et bien entendu, au milieu de ça, il y a un gestionnaire qui doit faire en sorte que son budget, enfin son hôpital, soit géré, entre guillemets, en équilibre. Alors, je ne reviendrai pas sur le principe du pourquoi réguler un hôpital. On régule un hôpital économiquement parce que c'est de l'argent, entre guillemets, public, et qu'il faut rendre des comptes publics. Quand c'est de l'argent privé, ben, c'est le marché qui régule. Là, ce n'est pas de l'argent privé, c'est de l'argent qui est prélevé sur vos cotisations, sur nos cotisations, sur celles des employeurs, et qui doivent, à ce moment-là, donc être contrôlés. Et c'est donc ce qui explique cette nécessité de régulation. Et la deuxième régulation, c'est que l'État, par le Parlement, décide de la masse que l'assurance maladie va prendre en charge pour assurer nos soins. Alors, moi je voudrais parvenir sur la T2A, puisque ça a été très bien expliqué. Je voudrais dire pourquoi en fait l'hôpital doit se mettre sous tension. On n'est pas naturellement incité à faire un effort. Ce matin, en venant avec ma petite voiture, je cherchais le parking le plus proche pour avoir le moins de chemin à faire. Le gestionnaire hospitalier, il va chercher à faire, entre guillemets, le moins d'efforts. C'est pas dire que c'est fainéant, attention, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Je vais simplement dire que c'est quand même casse-pied d'aller faire des restructurations, discuter avec les syndicats, les médecins, etc., pour essayer d'améliorer l'organisation d'un hôpital. Donc, il faut mettre l'hôpital sous tension. Faute de quoi, il ne bouge pas. Puisqu'effectivement, même s'il se met en déficit grave, bon, on va commencer par changer le directeur général, bon, ça c'est bien, ça peut arriver, c'est fréquent, ça arrive. Bon. Deuxième élément, le suivant, il va falloir qu'il s'y mette. Donc de toute façon, il faut mettre l'hôpital sous tension. Et que par ailleurs, on a des éléments exogènes qui nous amènent à être encore plus contraints d'aller mettre l'hôpital sous tension, c'est qu'on a des problèmes de démographie. On a un double problème, un double constat, une double évolution. On a une démographie de la population qui vieillit, avec un comportement, j'allais dire, aux soins des personnes de ma génération, c'est-à-dire des jeunes sexagénaires, qui va être différente, et donc qui va consommer des soins, et qui va exiger des soins, et bon, avec en plus l'allongement de la vie, on voit bien qu'il y a un vrai problème d'offre et de demande de soins qui va se poser, qui se pose et qui va se poser. Et que deuxièmement, on a un problème de démographie des professionnels de santé, qui va créer de la rareté de la ressource et qui impose donc qu'on s'organise autrement. De toute façon, tous ceux qui ne veulent pas réfléchir à ces questions de restructuration, de regroupement, ne vous inquiétez pas, la démographie médicale fera le ménage. C'est pas compliqué, et je peux vous donner 1000 exemples de ça. Alors, moi ce que je voudrais vous donner, c'est quelques exemples de comment je mets un hôpital sous tension. Mais avant, je voudrais terminer sur la qualité, j'ai oublié un. Je sais que la qualité, et c'est là où on touche un domaine extrêmement difficile, la qualité, il y a la qualité telle que nous la ressentons en tant que patients, en population, ou telle qu'on l'imagine. Bon, ça c'est une chose. Et puis, il y a la qualité qui est définie par les professionnels. Alors, qualité, ce que j'allais presque dire, indicateur froid, faut ci, faut ça, faut tant de machin, faut tant de trucs, ça. Mais bon, c'est pas forcément ce qu'attend le patient. Il attend peut-être simplement qu'on puisse garer la voiture, parce qu'il présuppose que les soins sont corrects. Et donc tout le reste. Enfin, donc on voit bien que cette notion de qualité peut aussi, intervenir dans le jugement qu'on a du fonctionnement de l'hôpital, et interpréter que le fait que cette qualité qu'on ne trouve pas forcément très bonne, mais qui n'est pas la même que celle que le professionnel considère, fait que trouve que la régulation des hôpitaux, en fait, c'est peut-être bien ça qui fait qu'on n'a pas cette bonne qualité telle qu'on la voudrait. Donc on voit bien que là, ça devient un peu plus complexe. Chacun a sa propre appréciation de la qualité. Et je crois que ça, c'est un point essentiel. Mais il faut bien ne pas oublier que le gestionnaire hospitalier public se doit, lui, c'est son obligation, d'assurer la sécurité et la qualité. Je ne peux pas laisser un hôpital qui n'est pas respectueux des normes incendie. Je ne peux pas laisser un hôpital dont les secours électriques ne sont pas bien organisés. Je ne peux pas laisser un hôpital où on fabrique les fameux médicaments, les médicaments anticancéreux sur un coin de table dans un office de service médical, alors que ça doit être préparé dans des conditions rigoureuses dans une pharmacie. Et là, on commence à jouer, à taper sur le jeu des acteurs. C'est tellement plus simple de faire ça sur son coin de table, dans son service, sans avoir à demander, etc. Mais il n'empêche que s'il y a une erreur de fonctionnement parce qu'il n'y a pas de pharmacien à côté, etc., la responsabilité est importante. Donc vous voyez bien que la notion de qualité de sécurité, tout ça doit être pris en compte quand on fait de la gestion. Alors, je ne renie pas ma formation, ni mon métier, la formation d'économiste, et surtout pas, et encore moins mon métier, parce que j'ai exercé jusqu'à 27 ans, mais j'insiste beaucoup sur ce fait qu'on fait de la gestion, mais on le fait dans un cadre où ces notions de qualité de sécurité sont importantes. Alors, je suis contraint de mettre l'hôpital sous tension. Alors, je le fais. Et comment je vais le faire? Alors, je peux d'abord me dire, il ne faudrait pas trop que je travaille sur les services de soins. C'est compliqué, c'est des malades, des associations, tout ça. Bon. Et puis, en fait, on se dit, on va taper dans les structures, les fonctions administratives, les fonctions logistiques, bon, je reviendrai. Et puis, très vite, l'effort, quand on a fait recentrer, etc., hein, après, il n'y a plus grand-chose à gratter, donc on va tomber dans l'organisation des soins. L'organisation de coopératoire, l'organisation de services. Alors, je vais prendre quelques exemples concrets que j'ai conduits moi-même ou que j'ai observés. Alors, parce que c'est souvent le problème le plus délicat. Comment je vais faire des restructurations hospitalières, quel vilain mot qu'il faut prononcer. On doit restructurer les hôpitaux. On ne peut plus laisser certaines choses fonctionner comme ça. Alors, je prends mon premier exemple, le regroupement des transplantations hépatiques intramuros à Paris. L'assistance publique gère 7 centres de foie de transplantation hépatique, centres de transplantation de foie. Deux énormes centres, un au nord et un au sud de Paris, c'est-à-dire, Extramuros pour le coup, un à Clichy et l'autre à Villejuif, qui sont les deux, trois grandes équipes françaises avec les équipes lyonnaises. Bon. Alors, ils dépensent les 100 greffes par an, ils sont dans les normes internationales, il n'y a pas de souci. À l'intérieur de Paris, il y avait un hôpital au centre Cochin qui en faisait, l'hôpital Saint-Antoine, à l'est plutôt de Paris, et la Pitié-Salpêtrière, donc au sud-est. Bon. On a donc décidé de regrouper les centres de transplantation intramuros à Paris, parce que chacun était bien en dessous de 50 transplantations par an, alors qu'on pense qu'il faut, enfin la littérature internationale dit qu'il faut au minimum quand même de 80 transplantations. Parce que quand même, on ne fait bien que ce qu'on fait souvent. Hein, quand même. Donc c'est très bon. Parce que la transplantation, il n'y a pas que l'acte chirurgical, il y a tout l'accompagnement médical. Alors, on a fait, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait un appel à projet à Paris, puisque comme il y avait 37 hôpitaux, donc on a fait un appel à projet pour les équipes, avec un cahier des charges. On a désigné un jury sans personnalité d'assistance publique, avec une personnalité francophone étrangère, et on a appliqué strictement les conclusions du jury. Donc il y a eu trois réponses de trois hôpitaux intramuros concernés, chacun voulant être lui-même le centre, bien sûr, unique. Et en fait, très curieusement, le jury a pris le responsable d'une équipe, d'un hôpital, et a proposé qu'il aille travailler dans l'hôpital B. Et disant que pour l'hôpital C, il faudra attendre un changement d'homme en 2012. Les dates de mise à la retraite sont souvent des moyens de régulation importants dans les hôpitaux. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, ça s'est fait. Investissement minimum, hein, comme du travaux, etc. Qu'est-ce qu'on s'aperçoit? C'est que maintenant, on a trois centres qui font plus de 100 greffes à Paris, enfin Paris, région Île-de-France, et qu'au total, avec un moyen constant, là, rigoureusement, on se retrouve avec plus de transplantations hépatiques réalisées en Île-de-France en 2009. Bon, effet d'aubaine, je ne sais rien. Effet concret, voilà. Avec des équipes regroupées, et en 2012, le centre intramuros parisien va récupérer celui de la Pitié-Salpêtrière, et là on aura donc trois énormes centres qui permettront de faire de la transplantation. Alors, je termine sur cet exemple en vous donnant une donnée comparative internationale. La Grande-Bretagne a un certain nombre de millions d'habitants, je n'ose pas dire le chiffre parce que je vais me tromper. Et elle a 6 centres de greffe hépatique. Bon, il reste encore 4 à Paris, c'est un point d'enfant de penser qu'on devrait pouvoir faire. Voilà, donc c'est un exemple de « on a mis tout le monde sous tension ». Mais quel est le bénéfice? Il n'y a plus qu'une garde pour le prélèvement, il n'y a plus qu'une garde pour la transplantation, il n'y a plus qu'un service de réanimation qui prend le patient en charge. Donc, on a diminué le coût, on a diminué la charge de travail des personnes. Les 3 chirurgiens de Cochin qui se tapaient une astreinte sur 3, plus les 3 chirurgiens de Saint-Antoine qui se tapaient une astreinte sur 3, et bien ils font une astreinte sur 6. Voilà un exemple de on met le système sous tension, on regroupe et on a un résultat. Alors, un autre exemple. Vous voyez bien, là, je tape dans le médical, hein, je viendrai dans le logistique. 2 services d'hématologie, traitement des maladies du sang. Alors, je vais avoir un exemple. Lyon, alors, je sais puisque j'avais initié le projet quand j'y étais, de dire il y a un service d'hématologie clinique autour de la leucémie à l'hôpital Édouard-Herriot et un autour du lymphome à Lyon Sud. Bon, il a été convenu qu'il fallait mieux regrouper en une seule structure à Lyon Sud ces 2 services. Le bâtiment, je crois, il fait une construction. Voilà. À Paris. L'hématologie, il y en a pas mal. Il y en avait à l'Hôtel Dieu et il y en avait à Saint-Antoine. On a décidé de la regrouper à l'hôpital Saint-Antoine. On a regroupé 2 services qui sont complémentaires en termes d'approche des patients. On a permis à des équipes de travailler, j'allais dire, de manière plus. Le nombre de médecins, le nombre de personnes, etc., ils sont plus adaptés. L'activité, le regroupement s'est fait au mois de juin de cette année. Je n'ai pas le bilan complet, ce que je sais, c'est c'est fait que 2, l'activité n'a pas diminué, et que 3, là, les coûts ont baissé, les coûts de structure de cette activité de soins ont diminué. Troisième exemple, alors, un peu plus loin du malade, mais pas si loin, la biologie, Hôtel Dieu Cochin, donc ces 2 hôpitaux à distance d'un 1,5 km. On a décidé, dans le cadre d'un groupe hospitalier unique, Hôtel Dieu Cochin et quelques autres hôpitaux de personnes âgées, que toute la biologie serait regroupée dans un bâtiment unique à Cochin, l'hôpital Cochin. Donc une construction d'un bâtiment qui était au départ ne prévu que pour Cochin. La nécessité de l'attention hein, pour arriver à aller dans le sens du budget nous a conduit à dire on va regrouper toutes les équipes, Hôtel Dieu, Cochin sur le même site. Résultat, c'est une montée en charge progressive. Le bout du chemin, c'est moins 55 emplois. Alors c'est dire que vous êtes affreux, vous supprimez des emplois, je ne remplace pas les départs, ne confondons pas tout. Premier élément. Deuxième élément, donc le gain de productivité est énorme. On compte environ un agent hospitalier public en moyenne à 45 000 euros chargés, c'est-à-dire des charges sociales triées à la patronale. Donc on s'aperçoit quand même que les technologies de l'information et les technologies analytiques pour la biologie aujourd'hui permettent de ces regroupements. On envisageait même, un peu avant mon départ, de créer des plateformes industrielles de biologie, pratiquement robotisées. Voilà, 3 exemples, par exemple, qui peuvent être un point important. Alors, un autre exemple qui peut prêter à discussion, qui peut... Création d'un centre unique de prise en charge des grands brûlés à Paris, enfin en Ile-de-France. C'est malade, en train de avec les brûlés. Alors, premièrement, pourquoi? Pas pour des raisons économiques. D'abord parce que la demande en prise en charge du grand brûlé a diminué. Heureusement, grâce à la prévention, grâce, c'est comme pour la chirurgie de la main avec les tondeuses. Aujourd'hui, pour les brûlés, il y a beaucoup moins d'accidents domestiques. Les grands accidents qui arrivent sont souvent des accidents industriels. Donc, on s'est dit, on peut regrouper un centre unique. Mais centre unique pour l'assistance publique, sachant qu'il y avait un hôpital militaire, l'hôpital Percy à Clamart, qui a lui un service de donc on était 2 centres qui permettaient de faire face à des aléas de fonctionnement. Et bien là, on a créé de nouveau un centre à Saint-Louis, l'hôpital, en regroupant les moyens de trois autres hôpitaux, progressivement, avec un investissement certes important à la clé, mais les deux chirurgiens réparateurs, enfin, deux chirurgiens réparateurs sont ensemble maintenant, les réanimateurs sont ensemble, les personnels ont suivi, etc. Donc on voit bien, si vous voulez, qu'à moyen constant, cette fois-là, dans des conditions de travail nettement améliorées, de la permanence et de la continuité des soins nettement améliorées, on peut regrouper. Voilà encore un exemple. Alors vous allez me dire, vous tapez sur les médecins, etc. Alors, on va taper un peu sur l'administration, parce que quand même, ce serait trop pas drôle. Alors, prenons l'exemple des groupes hospitaliers à l'assistance publique de Paris, je terminerai par ça. 37 hôpitaux, j'ai créé 12 groupes, enfin, le directeur a créé 12 groupes hospitaliers. Ça a permis de transformer 37 équipes de direction en 12 équipes de direction. Le gain de l'ordre en non-remplacement de personnel sur 2010, à fin septembre, était d'environ 150 agents par le groupement des équipes. Donc, on voit bien, si vous voulez, que, je pourrais multiplier les exemples, je regardais sur le site des hospices civils de Lyon hier, la création de la troisième grande cuisine centrale, qui est la plus grande cuisine hospitalière d'Europe, donc qui permet d'avoir trois cuisines pour les 16 établissements, donc, etc. Voilà. Donc moi, ce que je voudrais dire, et je termine là-dessus, c'est qu'on peut aussi, dans toute la partie logistique, réfléchir à l'externalisation sans que ce soit une panacée. Je voudrais simplement dire en conclusion que pour moi, ces restructurations qui permettent de se rapprocher de l'objectif de coût, en maintenant, voire en améliorant le niveau de qualité et de sécurité des soins, mais que pour ce faire, il faut mettre l'hôpital sous tension et donc son gestionnaire sous tension, ce que j'ai fait pendant quelques années. Voilà, merci de votre attention sur ce point. J'ai voulu être très concret, c'est ce qu'on m'avait demandé, voilà, pour vous dire que c'est quand même possible de faire de la gestion hospitalière tout en maintenant, voire en augmentant la qualité et la sécurité des soins.